Alors, on va attaquer par tout de suite un verset. Ésaïe 45, Marion, je ne vais pas donner le bon verset. Ésaïe chapitre 45, verset 18. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu, qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Tout ça pour dire que notre Dieu est le Dieu créateur. Avant d'être quoi que ce soit, d'être qui que ce soit, il est le créateur. Et même avant d'être le créateur, il est tout simplement. Il a toujours été et il était toujours là. Mais il avait un projet. Et c'est vrai que quand on se prend cette perspective de dire que Dieu est le créateur, ben, on a l'impression, c'est comme si on regardait à l'envers dans une longue vue. Hein, on se sent tout petit. Parce que quand on considère la grandeur de la création, non seulement quand on se regarde nous, qu'on regarde notre corps, qu'on est une machine très complexe, qu'on regarde la création, les créatures, qu'on regarde les galaxies un peu plus loin, on se rend compte que vraiment, waouh, celui qui a créé tout ça, c'est pas un rigolo. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un rigolo. Et Dieu, on pourrait le comparer à un architecte. Les grands scientifiques aiment bien l'appeler le grand architecte. Parce qu'au plus ils étudient, au plus ils approfondissent, au plus ils disent « mais c'est de plus en plus complexe que je découvre. C'est tellement complexe que ce n'est pas possible, il y a un cerveau derrière tout ça. » Et moi, lorsque j'ai fait ma démarche d'avancer vers Dieu, j'avais 16-17 ans, et puis voilà, j'avais la foi, je croyais en Dieu, j'avais déjà vécu des choses, mais j'ai été interpellé par la science. Et je me suis dit, que dit la science à propos de Dieu? Parce que c'est bien, Dieu, tu es grand, mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu, tu es grand? Dieu, tu es beau, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Dieu, tu es beau? Et ça m'a interpellé. J'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé à me renseigner. Et je me suis rendu compte qu'un petit peu de science, hein, c'est bien, hein, ça t'enorgueille un petit peu, tu as l'impression de connaître des choses. Mais ceux qui sont les plus éminents, ceux qui découvrent les choses, ceux qui sont à la pointe de la technologie, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils se rendent compte qu'à un moment donné, il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a l'horloger qui est là, qui a prévu les choses, qui a préparé, qui a créé, il y avait un plan dans sa tête. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et notre Dieu, s'il a créé les choses, on l'a dit dans ce verset, c'était pour que la terre soit habitée, qu'elle ne soit plus déserte. Il l'a formée. Il est Dieu. Et il avait un projet. Il a un projet. Il a un plan pour l'humanité. Il a un plan. Il a pensé à des choses qu'il désirait, qui étaient dans son cœur. Et il a dit, maintenant, je vais les mettre en œuvre. Il y a des choses qui sont là, je vais agir. Je vais créer, je vais parler. Par sa bouche, les choses sont sorties. Incroyable, non? Et quand tu prends cette perspective-là, tu te dis, waouh, Seigneur, je fais partie de ta création. Je suis ta création. C'est quand même réconfortant. On se sent petit, mais en même temps, on se dit, dans cette grandeur, Dieu a pensé à moi. Il y avait un projet pour moi. Si je suis là, ce n'est pas le fruit du hasard. Peu importe les circonstances dans lesquelles je suis venu sur cette terre, Dieu m'a voulu. Et j'aimerais te rassurer ce matin, et il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, Dieu te veut là, Dieu a pensé à toi, Dieu t'a désiré, et Dieu te veut encore maintenant. Waouh ! On se sent aimé là d'un coup. On se dit, c'est quand même incroyable. Ce Dieu si grand, parfois si lointain, a pensé à moi. Alors, vous voyez, hop, je descends. À Noël, j'ai fait un petit cadeau à ma femme. Vous savez que je suis menuisier. Vous voyez ces planches? C'est mon cadeau de Noël. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, c'est des planches apéro. Chanel, elle aime bien les trucs un peu... c'est mignon, c'est la mode du bois. Et je me suis amusé à faire des belles planches. Et vous voyez ce bois, j'ai choisi un bois, et ça c'est de l'orme. Il y a beaucoup de bois, Dieu a créé une diversité de bois impressionnante, ce qui fait que je m'amuse quand je travaille, c'est sympa quand même. Et je peux travailler avec un bois un jour, une autre essence un autre jour, mais chaque bois, eh ben, on peut l'employer, mais on doit l'employer, il y a une utilité.
Je ne peux pas utiliser du sapin pour faire des planches. Je n'aurais pas pu parce que la résine aurait touché les petites tartelettes de Chanel. Et quand je les aurais mises dans ma bouche, ça n'aurait plus le même goût. Donc avant de faire ça, une chose aussi simple que ça, couper une planche, la raboter, la poncer, m'amuser à jouer avec son tracé. Vous voyez, là, il y a l'écorce. Ici encore, il a fallu que j'enlève l'écorce. Eh bien, avant de faire ça, il a fallu que je réfléchisse un minimum. Quel bois peut être en contact avec la nourriture? Et ensuite, après ça, il a fallu que je me dise quelle huile je peux mettre pour protéger la planche, parce que si je mets n'importe quelle huile, ça aussi, ça va toucher les aliments et c'est pas bon pour la santé. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que je réfléchis à un meuble, une construction, il me faut un plan, il faut un minimum savoir où je vais. Un minimum ce que je veux, là où je veux aller et ce que je vais utiliser. On ne commence pas un projet sans plan. Sinon on va se retrouver coincé à un moment donné et ça ne va pas aller. Alors ce matin, moi j'avais un projet, je vais en venir à ce qui nous est arrivé ce matin. Mon projet, c'était de venir à l'église. On se prépare, Chanel me dit à quelle heure on part. J'ai dit chérie, on n'habite pas loin, à 10 heures on part. Comme ça, j'ai le temps d'aller donner mes versets à Marion, elle sera contente. Et ce matin, je l'ai vue, Marion, je suis arrivé à 27, 28, et je vois Marion qui regardait comme ça, elle était prête à son service, là. Mince, il n'est pas là. Est-ce qu'il y a un prédicateur ce matin? Elle est en stress. Et là, j'ai regardé Marion, et j'ai dit, c'est bon, je vais te donner les versets. Et là, elle dit, mince, il y en a beaucoup. Je dis, ouais, comme d'habitude, hein. Et ce matin, on était prêts, Chanel me dit, écoute, je finis deux, trois trucs, sors, mets les enfants dans la voiture. J'ouvre la porte de la maison, vous savez, moi je suis un peu tête en l'air parfois, je me mets comme ça devant la maison, et je regarde, et je cherche la voiture. Et je dis, mince, et où est-ce que j'ai garé ma voiture? Et là, je suis là, je commence à stresser, tu sais, quand le stress y arrive, si on doit partir, j'ai mis où la voiture? Et là, qu'est-ce qu'on a fait hier? Et tu sais, quand tu commences à stresser un peu, des fois, tu perds le fil. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Et là, je dis, mais non, hier, on est rentré, on a été faire nos courses, je me suis garé près du poteau. J'ouvre mes yeux, je regarde près du poteau. Je dis, les enfants, vous voyez la voiture? Non, on ne voit pas la voiture. Ok, calmez-vous. Je dis, chérie, viens ici un peu. Viens voir parce que je suis peut-être fou, là. C'est mot pour mot, hein. Chanel arrive, je dis, chérie, elle regarde, la voiture, elle est là. Et Chanel qui pleure. Je dis, on nous a volé la voiture. Donc là, je dis, écoute, on va se calmer. On a un objectif, c'est aller à l'église. C'est pas grave, c'est une voiture, elle n'est plus là. On n'a plus le temps de courir après, elle n'est pas là, elle est partie. Alors Chanel, elle appelle tout de suite son beau-père, Antoine. Je dis, calme-toi, donne-le-moi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a volé la voiture et on a dû se réorganiser, on a dû réagir et trouver quelqu'un qui voulait bien venir nous chercher. Donc voilà notre petite péripétie de ce matin. Parfois, nos plans sont contrariés. C'est ça que je veux vous dire. Mes plans étaient contrariés ce matin. J'ai plus de bagnole. Ils ne sont pas seulement contrariés pour aujourd'hui, ils sont contrariés pour demain, pour après-demain, jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Mais il ne faut pas oublier l'objectif de ma vie. Est-ce que l'objectif de ma vie, c'est de rouler en voiture? La voiture, c'est un outil. C'est contrariant, c'est frustrant, mais ce n'est pas mon objectif final. Donc, obligatoirement, il faut remettre les choses à leur place et prendre la hauteur, tout de suite. Alors, on va lire quelques petites histoires dans la Bible et on va voir quelques plans qui ont été contrariés. Et on va voir que le plan de Dieu, lui, n'est jamais contrarié. Dieu est l'architecte parfait. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi et il veut qu'on avance. Et on aime bien ce verset de Jérémie 29, 11 et 14. C'est un verset qui nous rassure tout le temps et qui nous dit « En effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qui connaît ce verset par cœur? On l'aime bien, franchement. Il est réconfortant celui-là. Quand tu sais que Dieu à des projets de paix et d'espérance pour toi, tu dis, c'est quand même sympa. Parce que quand c'est difficile, tu peux te tourner vers ce verset-là. Mais ce verset, il a été donné dans un contexte. Il n'est pas juste donné pour nous en 2022. Il a été donné, c'est Jérémie qui va envoyer une lettre. Et il va envoyer cette lettre à qui ? Il va envoyer cette lettre au peuple d'Israël déporté, qui a été déporté de la part de Nebuchadnezzar à Babylone. D'accord ? Donc ils sont dans une situation difficile, ça ne va pas. On est arraché notre patrie. Et puis là, il y a des faux prophètes qui prophétisent n'importe quoi. La semaine prochaine, on va rentrer, ceci, cela, c'est difficile, c'est... Voilà, selon les circonstances, parfois il y en a qui prophétisent sur les circonstances, ça n'a rien à voir, mais bon. Et là, Jérémie, il reçoit une parole de l'Éternel et il dit, voilà ce que dit Dieu. Et il va leur expliquer les plans. Vous allez rester là autant d'années et je vais venir vous chercher. Multipliez-vous, soyez en paix dans votre pays. Faites ce que vous avez à faire. Soyez des bons chrétiens, entre guillemets. Soyez des enfants de Dieu là où vous êtes. Parce que moi, j'ai un plan. Et ceci fait partie de mon plan. Et j'ai endurci le cœur de Nebuchadnezzar pour que vous soyez dans cette situation. Waouh ! Tu dis, même ceux qui ne se soumettent pas, qui ne soumettent pas leur vie à Dieu, eh ben, ils font partie du plan de Dieu. Alors parfois, on est dans une situation d'inconfort, et là, le peuple a dû accepter de dire, je suis dans une situation qui n'est pas confortable. Mais dans cette situation d'inconfort, je sais que Dieu est au contrôle. Et c'est là où va se manifester leur foi. De dire, ok, je vais arrêter de courir partout comme une poule sans tête. Je sais que dans cette situation, Dieu est là, dans ces circonstances-là. Et plusieurs fois, quand vous lirez ça, ça ne sert à rien de tout lire ce matin parce qu'il y a beaucoup de versets, vous verrez que Dieu dit « Je vous ai amené captif ». Waouh ! C'est moi qui ai fait ça. Fais-moi confiance tout simplement. Et il donne quelques petites informations pour qu'il puisse... supporter tout ça, mais voilà. Mais vous savez, il est impressionnant de voir que dans les mêmes circonstances, deux personnes différentes vont réagir de deux manières différentes. Dans des circonstances difficiles, eh bien, soit tu vas ressortir de cette situation-là victorieux, c'était dur, c'était pas facile, mais au bout du compte, tu as la victoire, ou les circonstances vont faire que tu vas ressortir amer et frustré. Et si on se posait la question, on a tous vécu ces situations, et on a tous vécu la victoire, et on a tous vécu la frustration. Je suis déjà sorti de certaines situations frustrées, tout comme je suis déjà sorti de certaines situations victorieuses. Est-ce que c'est juste pour vous aussi, ou vous êtes que dans la victoire ? On n'est pas tous que dans la victoire, mais Dieu nous appelle à être dans la victoire, ça c'est une réalité. Alors pendant deux semaines, les deux dernières prédications, on a appris une chose, que Dieu a son agenda. On l'a entendu, hein ? Dieu a son agenda. Et moi, j'aimerais rajouter que comme il est le Créateur, en plus d'avoir son agenda, eh ben, il y a un plan. Il a un plan pour moi. Il y a un plan pour toi. Alors là, peut-être que tu entends ça et tu dis, ouais, c'est bon, je connais ça. Mais réfléchis un petit peu à ta vie là, actuellement, aux circonstances, à ce que tu es en train de vivre. Peut-être tout va bien, peut-être tu es dans une réussite et tout ça. Mais pose-toi la question, Seigneur, quel est ton plan actuel, aujourd'hui, maintenant, pour ma vie ? Quel est ton plan pour ma vie depuis que je suis né ? Si tu fais le point sur ta vie et tu dis, voilà, il y a eu ça, 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 il y a eu ça. Voilà, Seigneur, est-ce que j'arrive maintenant, avec du recul, à lire ton plan ? Parce que souvent, on n'arrive pas à lire le plan de Dieu dans les circonstances quand on les vit. On arrive à le lire après. Mais là, déjà, avec un peu de recul, est-ce que tu peux dire, voilà, j'ai vu le plan de Dieu s'accomplir pour ma vie dans tel et tel domaine ? Vous y arrivez, là ? Ou c'est difficile ? Vous êtes timide ? Bon, on va dire que vous y arrivez. Sinon, ça va me perturber, hein ? Il a un plan pour notre vie. Mais avant d'avoir un plan pour notre vie, et ça c'est important pour nous enfants de Dieu, avant d'avoir un plan pour moi, il y a un plan pour l'humanité. Avant d'avoir un plan pour moi, il y a un plan pour mon pays. Avant d'avoir un plan pour moi, il y a un plan pour ma ville, mon quartier, mes voisins, ma famille. Et après, il y a un plan pour moi. Tu peux le mettre dans l'autre sens si tu veux, mais tout ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas le centre du plan de Dieu. Il n'y a pas que toi. C'est bon de se sentir aimé, de sentir que Dieu s'occupe de moi. Et il va s'occuper de ma petite voiture, vous voyez, je sais, j'en suis convaincu. Ça ne m'inquiète même pas. Je sais qu'il va s'occuper de moi. Mais Dieu, il y a d'autres choses à gérer aussi. Et la question, c'est comment moi, je vois le plan de Dieu. Est-ce que je vois qu'au travers de ma vie, ou est-ce que je vois de manière plus globale? Parce que si je veux être utilisé réellement par Dieu, va falloir que j'arrive à sonder les choses et à dire, Seigneur, ma place est là actuellement pour un temps, elle l'est peut-être ailleurs pour un autre, et Dieu va vous faire un petit peu bouger de gauche et droite, et il va falloir répondre à un appel. Et souvent, on entend, j'ai un appel de Dieu. On aime bien l'appel de Dieu, ça nous fait du bien, l'appel de Dieu. C'est mon appel. On aime bien le dire comme ça, mon appel. Non, c'est juste un appel de Dieu. Et Dieu nous appelle tous, en fait. Il t'appelle toi particulièrement, il m'appelle moi particulièrement parce que je suis différent de toi, tu vois. Moi, je suis peut-être de l'orme et toi, t'es peut-être autre chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prêche de Fred sur les hélices. Il nous avait expliqué qu'on était tous des hélices différentes avec une motricité pour le vent, peu importe. Et c'est exactement ça. Tu as un appel. Tu es appelé à faire quelque chose. Si Dieu t'a créé, c'est pour être utile. Il veut t'utiliser. Il y a un plan pour toi. Mais il n'y a pas que toi. Tu fais partie d'un plan. Et le plan de Dieu, ça a été quoi? Ça a été l'Église. L'Église de Christ. Sa construction. Et pour son Église, il a tout donné. Il a offert son Fils. Faut quand même, on a entendu, Jésus, il n'a pas donné deux petites gouttes de sang pour son Église. Il a tout donné. Il a souffert. Et il nous a donné l'accès au Père. Il a tout abandonné. Pour qu'on puisse être à l'œuvre dans l'Église. Dieu a un plan pour toi pour que tu sois à l'œuvre dans le corps de Christ, avec ce qu'il t'a donné, l'outil que tu es, l'hélice que tu es. Qu'es-tu capable de produire? Et on a cette question quand on vient à Christ, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais être actif, j'ai mes talents. Et au départ, on n'arrive pas à faire vraiment la part des choses. Voilà, je suis bon dans ça. Peut-être que tu es un très bon entrepreneur, mais que dans l'Église, tu n'as rien à entreprendre. Dieu veut peut-être que tu fasses autre chose dans l'Église. Donc si tu vois avec tes yeux personnels, avec le moi qui dit « je suis capable de », tu vas peut-être te tromper. Peut-être que à l'inverse, Dieu t'a donné des qualités humaines pour que tu puisses œuvrer dans le même domaine dans l'Église. Mais il n'y a pas de règle en fait. La question c'est toi, comment eh bien, tu vois le plan de Dieu pour ta vie au sein de l'Église de Dieu. L'Église d'abord, ta petite Église, ta famille. La petite Église, l'Église on va dire, hein, ici, locale. Et en plus, après, bah, voilà, il y a plus. Alors, on va lire un petit peu encore quelques petites histoires. Et vous allez voir que Dieu met des rêves dans nos cœurs. Et qu'il est ce Dieu qui il va mettre en toi quelque chose. Il va mettre en toi cet appel. Et tout le monde l'entend. T'apprends à entendre l'appel de Dieu. Seigneur, je sens que tu veux m'utiliser là. Et Dieu va mettre ça dans ton cœur très vite. Très vite. Quasiment au moment où tu donnes ta vie à Dieu. Et peut-être même avant. Surtout avant. Vous allez voir pourquoi. Déjà dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, eh bien, Dieu, il savait déjà ce qu'il avait déposé en toi. Parce qu'il y a un plan à nouveau. Alors, on va lire cette petite histoire de Romains 9, verset 11, l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Vous vous souvenez de ça? Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal afin que le plan de Dieu subsiste. Conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Donc je sors ça de son contexte, c'est juste pour vous montrer. Vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dit dès le ventre de la mère, c'est le cadet qui quoi? Qui sera au-dessus de l'aîné. Vous vous souvenez de cette histoire? Et vous avez vous avez Jacob là, qui va être celui qui... Moi, je l'aime pas, là, petit Jacob, il m'insupporte. Franchement. Il est là, il est dans la tente avec sa mère. Il se fait caresser. Il est bien. Il discute avec elle. Il raconte. Et puis là, Ésaü, il va à la chasse. Et c'est lui qui nourrit tout le monde. Moi, il m'énerve. Au niveau du caractère, il m'énerve. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a deux caractères là qui vont s'affronter. En fait, t'as Jacob, il veut rien faire. Lui, c'est tranquille, la vie. Et il va tout faire pour faire quoi? Pour venir chercher la bénédiction. Vous la connaissez, cette histoire. Et de manière fourbe, il va prendre la bénédiction. Et vous avez Ésaü, lui, il compte que sur lui-même. Il m'énerve aussi un petit peu. Parce que lui, c'est bon, lui. C'est un winner, lui. Il prend son arc, il tue les bêtes, il donne à manger à tout le monde. Et puis lui, il n'a pas besoin de Dieu. Vous savez, la bénédiction de Dieu, il n'y en a pas besoin. Il sait tout faire tout seul. Et vous avez deux caractères là qui s'affrontent. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, en fait. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il y en a un dans la tente, tout doit couler tout seul, l'autre, il n'y a besoin de personne. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Le problème, c'est la question, c'est dans quel caractère moi je me situe. Et vous pouvez tout de suite le dire, quel type de personne je suis, fondamentalement. Là, si vous réfléchissez, ça vient tout de suite. Parce que vous êtes dans une de ces deux catégories. Moi, je suis plutôt un peu comme... Alors, on va voir. Je suis plutôt comme qui? On va voir si vous me connaissez. Alors, je suis plutôt comme qui, moi? Ésaü! Moi, je casse tout, moi! Ah, je veux quelque chose, j'y vais! Mais parfois, c'est pas bon. Et moi, mon problème, ça va être d'apprendre à ne pas me soustraire à la bénédiction de Dieu, en pensant que par moi-même, je peux faire. Celui qui pense que tout va tomber tout seul, eh ben lui, il doit comprendre qu'un jour, il sera tout seul. Et il ne pourra pas profiter des autres. Et vous savez, Jacob, ce qui s'est passé, eh ben un jour, il a dû affronter ça, il s'est retrouvé face à l'ange de l'Éternel, et là, il a dû combattre Dieu. Oh là là! Ah là, il s'est retrouvé devant Dieu. Eh ben maintenant, tu es tout seul. Ben, montre-moi si tu tiens autant à ta bénédiction. Maintenant, tu vas venir la chercher, ta bénédiction. Et c'est toi qui vas venir la chercher. Ce n'est pas le voisin qui va te la donner. Tu ne la voleras pas. Viens la chercher, montre-moi que tu en veux un petit peu. Et là, il s'est retrouvé face à qui? Face au Créateur, celui qui connaissait son cœur depuis le début, qui savait les choses, qui savait comment il était formé, qui savait que lui, il y avait une tendance un peu, il y avait un petit nœud dans son cœur. C'est comme le bois, vous voyez, j'ai choisi du bois là où il n'y a pas de nœud. Parce que quand je le lave, il ne faut pas que finalement l'humidité, il faut qu'il respire, il faut qu'il sèche. Et s'il y a un nœud, il va se tordre. Et je me suis amusé quand j'ai fait ces planches parce qu'en fait, j'en ai fait pour toute ma famille. Et quand je pensais aux planches, j'ai fait les planches, je regardais la planche et je me disais, mais cette planche, elle est comme ça, elle pourrait correspondre à qui? Et je m'amusais à dire, tiens, c'est tel tempérament, cette planche lui ressemble un peu plus. Ça m'a fait rire. Hein. Et Dieu, il nous a fait un peu comme ça. C'est comme si quand il nous a créé, il dit, lui, il est un peu comme ça, lui avec son défaut, sa faiblesse, lui, il y a un petit nœud là. Mais je sais comment je vais y remédier. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer avec Jacob? Jacob, il est vieux et Jacob, il va faire une grande famille, il y a plein d'enfants. Et là, qui va arriver? On connaît tous l'histoire de Joseph. Le cycle se répète. Joseph, insupportable. Oh, quand tu lis Joseph, chapitre 37, t'en peux plus. Je relisais ça, cette histoire. Vous lisez l'histoire de Joseph de 37 à 50. Tu dis, mais il est insupportable. Pour moi, il m'insupporte, Joseph. Il est là, avec sa tunique. Mon père m'aime. Il n'en fout pas une, clairement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et, mais en fait, il est aimé de son père parce que quelque part, eh bien, Jacob l'aime parce que ce qu'il retrouve en Joseph, c'est le même caractère que lui. C'est le même fond. Il y a un héritage, hein, vous savez. Moi, vous allez me dire que je suis un peu comme mon père, mais aussi un peu comme ma mère, peut-être un peu comme ma tante. Dans les familles, ça coule, hein, c'est incroyable. Il y a des choses qu'on doit garder, il y a des choses dont on doit soustraire. Mais, voilà, Joseph... Il n'est pas possible, il n'est pas possible, mais il n'est pas possible. Il est là, et puis il y a 17 ans, et puis il est là, et puis on va lire le verset, hein, verset 2, chapitre 37. Verset 2, 17 ans, voilà, il prend soin du troupeau, très bien, il en fait quand même un petit peu, hein, parce que bon. Et le garçon était en compagnie des fils de bien, il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Il veut avec ses frères. Et tout ce qu'il sait faire, le gaillard, c'est aller voir le père et dire, tu sais, là, le bœuf, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein, franchement, hein, t'es d'accord avec moi? Et on croirait voir Jacob avec sa mère, quelques dizaines d'années avant, qui parlait de la même manière. Vous voyez, cette critique, cette médisance-là, elle coule encore de génération. Et lui, il est là. Mais le problème, c'est que Dieu sait qu'il est, Dieu a un plan pour lui. Malgré son petit nœud, là, il va l'utiliser. Mais il y a ce tempérament où Dieu va venir le chercher, en fait. C'est « Ok, très bien, j'ai un plan pour toi et je vais te le révéler. » Et boum, il lui balance deux rêves. Bah, 17 ans, j'ai deux rêves, super. Et lui, il est excité, il y a deux rêves. Waouh, Dieu veut m'utiliser. Et là, il critique ses frères 5 minutes après. 10 minutes après, il va les voir et il leur dit « Vous savez quoi, je vais un jour, moi je suis la gerbe, je vais être au-dessus de vous. » Et puis, voilà. Mais imagine l'aîné, le mec qui est dans le champ, il rame, il n'en peut plus. Et là, il vient devant lui, et à un moment donné, première vision, il dit à ses frères, deuxième vision, il redit à ses frères, il dit à son père. Et son père, il regarde, même son père, Jacob, il tombe par terre, il dit « Attends, on doit se prosterner devant toi, là ?» Et quand vous voyez ce verset, Jacob lui dit « Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit se prosterner devant toi. » Et là, vous voyez que Joseph, il ne parle plus, parce qu'il a compris que... Il n'y a personne qui va se prosterner devant moi maintenant. Pourtant, Dieu a donné le rêve. Est-ce que Dieu est menteur? Dieu n'est pas menteur. Mais Joseph, vous savez, dans une équipe de foot, parce que cette famille, c'est une équipe de foot. Dans une équipe de foot, c'est celui qui... Tu sais, ta frappe, tu aurais dû l'enrouler un peu plus. Ici et là, t'aurais dû accélérer plus vite parce que, tu vois, c'est l'expert, il sait tout sur le jeu. Mais il n'a jamais fait une passe. Donc tu comprends la réaction des frères quand même. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Joseph, c'est aussi, moi j'ai fait du foot entre 15 et 16 ans là, et j'avais un entraîneur qui disait, les gars, faut mouiller le maillot là, faut mouiller le maillot! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout le monde ne va pas tout faire à ta place en fait, t'as un poste, fais ton job, parce que en fait, le défenseur, il est en attaque là, actuellement, parce que l'attaquant, il sirote un petit... Vous voyez, c'est pas possible, chacun son rôle. Et Joseph, à 17 ans, c'est un petit peu son attitude. Il veut être l'entraîneur avant d'avoir joué. Et en plus, il mouille pas le maillot. Mais le truc, c'est que Dieu compte bien tenir ses promesses. Dieu compte bien tenir ses promesses. Dieu n'est pas un Dieu menteur, il est un Dieu fidèle. Souvenez-vous de cette promesse, Genèse 12, chapitre 12, versets 2 à 3. Promesse d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu a fait une promesse au père de la foi. Il n'aura pas vu s'accomplir, mais sa descendance était destinée à entrer dans cette promesse et à entrer dans les plans de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui allait entrer dans leurs plans. Avant même qu'ils soient nés, Dieu savait ce qui allait se passer. Connaissait leur caractère, connaissait leur fourberie. Le problème avec le tempérament de Joseph, c'est que Joseph, il va aller à l'école de Dieu et ça va aller vite. Et qu'est-ce qu'il va faire, Joseph? Eh bien, il va se retrouver où? Dans la citerne. Ah! Là, Joseph, compliqué pour lui maintenant hein, de parler de ses grands rêves au fond d'une citerne. C'est compliqué. Hein. Et là, Joseph, il va être face, comme Jacob, à son combat personnel, avant de combattre pour qui que ce soit, avant de combattre pour quelque cause que ce soit, avant de combattre pour faire quoi que ce soit, c'était « on va s'occuper de ton cœur ». Je vais m'occuper de ton cœur, Joseph. Et j'ai un plan. Et en plus d'accomplir mon plan pour ma promesse que j'ai faite bien avant, pour la nation que je me suis choisie, que je désire me créer, eh ben j'ai besoin que ton cœur change pour que mes plans s'accomplissent. Le problème, c'est que je sais très bien que tu ne vas pas changer par toi-même. Tu as besoin d'une claque. Et là, il se retrouve dans la citerne. Oh là 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 là. Et vous connaissez l'histoire, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais Joseph va se retrouver où? Il va travailler. Et quand vous prenez le petit Joseph de 17 ans à l'époque, là où voilà, il y a des choses qui se passent en lui, il aime Dieu, oui, il aime Dieu, mais il y a un tiraillement en lui. Eh bien, et ce moment où il va passer par toutes ces épreuves, et au moment où il va être là, le deuxième plus haut responsable du pays, le plus puissant de l'époque, de la nation la plus riche, et il va se retrouver le premier ministre en chef, celui qui a une autorité folle. Mais avant ça, son caractère a changé. Parce que si tu prenais le petit jeune de 17 ans et que tu le mettais tout de suite à la tête de cette nation-là, il y aurait eu du grabuge. Et si vous lisez le verset, le chapitre 49 et chapitre 50, vous allez voir quand Joseph va retrouver ses frères, quand il va retrouver ce qui s'est passé, comment son cœur a changé. Il ne parle plus de la même manière, ce n'est plus le même homme. Et là, vous vous dites, waouh, Seigneur, tu étais toujours là. Est-ce qu'on peut dire de Joseph, et pourquoi on reconnaît que c'est un des héros de la foi? Pourquoi on sait que c'est malgré ses faiblesses, malgré ses difficultés, et ben de sa citerne, il a su sortir? Pourquoi? Parce que la clé, c'est qu'il a toujours eu confiance en Dieu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Il a toujours eu confiance en Dieu. Même dans la citerne, il s'est rattaché à ce rêve. Seigneur, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Tu m'as parlé. Et si tu m'as parlé, peut-être que je ne suis pas parfait aujourd'hui, mais tu m'as parlé, ça va se réaliser. Et quand il s'est retrouvé chez Potiphar, pareil, il y avait une belle situation, c'était déjà très bien. Il était déjà très bien. Allez hop, en prison. Et ça recommence. Non, Seigneur, non, 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 il y a un rêve que tu as mis dans mon cœur. Et là, son cœur change encore. Son cœur, au travers des circonstances, est transformé. Et quand il arrive à la tête du pays, là, oh là là, c'est différent. C'est plus le même. Et il va voir ses frères, il pense à son père. Et là, il va dire, oh, il faut que je les fasse venir ici. Et là, on entre dans le plan de Dieu qui n'est plus juste le plan pour la vie de Joseph, mais qui est le plan de Dieu qui est que finalement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Joseph va rapatrier toute sa famille. Joseph va rapatrier tout le monde. Ils vont tous revenir. Ils vont tous revenir. Oh là là. Ils seront, je pense, plus ou moins 70, je ne sais plus, 73. Si on compte Joseph, ils vont revenir là. Et là, maintenant, place à la promesse d'Abraham. Dieu savait qu'une famine terrible allait ravager le pays. Que s'il laissait ça arriver, eh bien, sa promesse allait s'éteindre, puisque la postérité d'Abraham allait mourir. Ils vont revenir dans le pays, là où maintenant il y a la richesse, mais en plus où ils auront toutes les faveurs, puisque Joseph, c'est le premier ministre. Et là, il va sauver premièrement sa famille. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? 430 ans vont s'écouler. Et là, on l'a entendu la semaine passée, ils vont ressortir de là plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Et là, on est où? Dans l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Combien de centaines d'années plus tard? Parce qu'il y a un homme qui a accepté le rêve de Dieu pour sa vie. Ben, ça lui a fait mal à certains moments. Ce n'était pas facile. Il était dans sa citerne. C'était dur. Mais il a cru que Dieu avait un plan pour lui. Profondément. Il a cru que ce que Dieu avait dit, ce n'était pas un mensonge. Et il a eu confiance en Dieu. Et il s'est laissé façonner. Vous lisez l'histoire de Joseph. Il s'est laissé façonner. Ce n'est plus le même homme. Moi, 18 ans, quand j'étais là, la puissance de Dieu, je vous le raconte souvent, elle est tombée sur moi. Il y avait le feu. J'ai cru que j'allais révolutionner la ville. Je me suis dit, c'est pas possible. Un feu comme ça, c'est pas possible. 2 semaines après, première citerne. Et Dieu a brisé mon orgueil. C'est la première chose que Dieu a fait. Et il a commencé la fierté, l'orgueil, le besoin de ci, le besoin de ça, compte que sur moi. Ben, ça faisait mal, hein? Et on vit tous ça, en fait. On a tous des citernes. Et ce message, il y a deux volets. Il y a le volet où c'est réconfortant parce que Dieu s'occupe de nous. Et je veux que tu te sentes réconforté parce que peu importe ta situation, peu importe ta citerne, peu importe si tout va bien, si t'es au pays de Potiphar en ce moment et tout va bien, peut-être que tu es en train de sentir que tout est en train de s'écrouler sous tes pieds, mais en fait, Dieu a un plan pour toi. Et ton seul choix dans cette situation-là, c'est d'avoir confiance en Dieu. Dis, Seigneur, je ne connais pas l'avenir. Je te laisse être le Dieu de mon avenir maintenant. Je te laisse. Moi, je vais agir avec telle attitude parce que je sais que toi, tu vas t'occuper de moi. Il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas combien de temps ça va passer. Il va se passer entre le moment. Mais tu as mis des rêves dans mon cœur. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est que tu te souviennes des rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Les rêves de Dieu, pas tes rêves personnels. Parce qu'en fait, ce que va faire Dieu, c'est qu'il va casser tes rêves personnels. Il va amener ses rêves à lui pour laisser Dieu vivre en toi. Et Jésus a dit quoi? A dit, je suis en Dieu. Dieu est en moi et moi je suis en vous. Et là, tu laisses le Père agir dans ton cœur. Tu me suis toujours? Genèse 45, versets 7 à 8, juste pour confirmer cette pensée. Et on va clôturer. Dieu, donc c'est Joseph hein, qui parle à ses frères. Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce qui est en train de se passer là, si vous lisez bien, c'est que c'est très dur pour Joseph de pardonner ce qui lui est arrivé. Mettez-vous à sa place, dans son attitude. C'est très dur de pardonner. Et en fait, il va être face à ses frères. Là, ils vont le reconnaître et ils vont dire « Mais waouh, qu'est-ce qu'on t'a fait, en fait ?» Parce qu'eux aussi, il y a eu un cheminement dans leur cœur. On peut parler d'eux aussi, mais il y a eu un cheminement. Et là, il va pardonner et il va dire « Ok, c'est fini. Je passe au-dessus parce qu'aujourd'hui, je comprends que c'était le plan de Dieu. Et je fais fi de ce que j'ai ressenti. Je vous pardonne réellement parce que Dieu a un plan pour nous. » Et là, il y a une vraie délivrance qui va se passer. Et là, le plan de Dieu est en route. Et ça part. Mais Dieu, il connaît nos caractères. Il connaît ce qu'on ressent. Il sait ce qui se passe en nous. Et parfois, il faut dire, « Ok, Seigneur, je lâche un peu là, je lâche un peu, je ne comprends rien du tout. Mais je décide de te faire confiance. » Et ça, vous savez, dans notre génération, ce n'est pas facile. On aime bien contrôler. On aime bien que ça aille vite. On aime bien maîtriser ce qu'on fait. On aime savoir ce qu'on va faire demain. Moi, j'ai vécu 2-3 mois là, terrible. Mon agenda était impossible à ficeler au niveau professionnel. Impossible. C'était insupportable. J'étais que dans la réaction. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. C'est invivable. Parce qu'on aime bien savoir où on va. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, c'est parce que tu es dans la citerne. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, tu es dans la citerne. Et là, ce qu'il faut faire, Seigneur, ce qu'on apprend de ces histoires-là, c'est de se dire, Seigneur, si je suis dans une citerne, c'est que tu veux m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que tant que tu n'as pas appris, tu ne sors pas de la citerne. C'est ça le problème. Et ça peut durer longtemps. Alors nous, de tout ce qu'on apprend là, c'est de se dire, Seigneur, ok, je veux connaître mon cœur. Quel type de personne je suis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Je sais que tu m'as... Je sais que tu m'as voulu, je sais que tu m'as mis là où je suis, tu as mis des rêves en moi, je suis peut-être un peu perdu, mais Seigneur, je veux être convaincu qu'il y a un plan pour ma vie. Et Seigneur, peu importe les circonstances en ce moment, que mon cœur te fasse pleine confiance. Que mon cœur te fasse pleine confiance. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Que mon cœur te fasse pleine confiance. Parce que je sais qu'est là ma délivrance réelle, ma liberté. Parce que si je reste dans ma citerne à tourner, c'est toujours le même mur, hein, c'est toujours le même paysage, et il ne se passe rien de nouveau, je deviens affamé, assoiffé, je ne suis pas bien, je suis tourmenté, je ressasse les mêmes choses, c'est mes pensées, c'est mon âme, j'arrive plus. Si tu n'arrives plus à louer Dieu, c'est que déjà tu es dans la citerne, c'est une clé ça. Si tu ne sais plus louer Dieu, si tu ne loues plus Dieu, c'est aussi que tu es dans la citerne. Parce que tu es centré sur toi en fait. Mais tu descends et tu dis, Seigneur, ok, il y a moi, il y a ce que je vis actuellement, il y a ce qui est dur pour moi, mais il y a ton plan. Alors Seigneur, je suis un outil pour toi et je sais que tu veux m'utiliser. Par contre, là, je suis en train d'être affûté. Le moment de l'affûtage, ça ne fait pas du bien. Moi, pour faire une belle planche comme ça, si je dois, je dois affûter mes ciseaux. Si j'étais à la place du ciseau, ce n'est pas un bon moment à passer. Par contre, quand je coupe, c'est assez plaisant parce qu'au moment de couper, c'est comme quand tu coupes une feuille et que ça fait schlac, c'est un peu jouissif comme ça. Tu te dis, waouh, tu as l'impression d'avoir accompli l'œuvre de ta vie. Ça s'est coupé nickel, waouh, super. Vous voyez, il y a ce genre de petites choses dans la vie. Tu le fais, tu dis super, hop, et tu recommences. Ben voilà, c'est un peu comme ça. Mais avant d'en arriver là, waouh, qu'est-ce que c'est dur. Ça vous le fait ça aussi? Il y a eu des jeux sur Internet, vous voyez, où à un moment donné, ça dévore l'écran. Je ne sais pas si les fourmis, moi j'avais connu ça. Et tu es là, et tu dis, c'est pas possible, c'est trop bien. Ça provoque un sentiment en toi. Ben, Dieu, c'est pareil. Il veut que tu aies ce sentiment-là, mais spirituel. En disant, Seigneur, waouh, c'est dur, c'est pas facile. Mais là, je sais que tu vas faire quelque chose. Et tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente. Tu dis, ok, Seigneur, c'est bon, je suis dans l'attente.